Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais garder Pascal Praud, mais qui a déjà filé. J'aurais adoré qu'il témoigne sur cette antenne. Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous retrouver chaque jour sur RTL. On est ensemble et en direct sur cette antenne, mais également sur l'application RTL. 3210, les réseaux sociaux, on a une heure devant nous. Alors sans plus attendre, place au sujet du jour. On interroge aujourd'hui, je vous le disais, notre goût de l'existence. Tient-il à celui ressenti de notre finitude? Certains ont marché sur la crête. Le pilote français Romain Grosjean a miraculeusement échappé à la mort après avoir été victime d'un terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn. C'était en décembre dernier. Comme lui, il est des personnes qui un jour ont failli perdre la vie dans un accident, dans un attentat suite à une maladie et qui ne sont plus tout à fait les mêmes depuis. Qui a frôlé l'irréversible découvre vermeil dans le futile, selon l'écrivain belge Paul Carvel. Alors frôler la mort change-t-il notre regard sur l'existence? Y a-t-il un avant et un après? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Christophe Auré, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et spécialiste, entre autres, du deuil. Voilà un sujet qui vous passionne.
Oui, du deuil, du soin palliatif, et on entend énormément de choses qui sont en lien direct avec, avec le sujet d'aujourd'hui, notamment toutes ces choses que j'aimerais qu'on aborde pendant l'émission, les expériences de mort imminente, toutes ces expériences aussi qui sont assez étranges mais extrêmement fréquentes en soins palliatifs, de personnes qui, au seuil de leur mort, peut-être quelques heures ou quelques jours avant leur décès, perçoivent quelque chose qui n'est pas visible des soignants, mais qui est clairement des proches ou des paysages, quelque chose qui semble apaiser considérablement leur vécu de la mort à venir. Et c'est vraiment une expérience également qu'on retrouve dans les expériences de mort imminente, où la principale caractéristique, vrai ou pas vrai, on s'en fiche, c'est que ça induit des changements en profondeur, notamment sur cette peur universelle, la peur de la mort, et avec des changements qui sont très vaste qu'on va certainement aborder tout à l'heure.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est très rassurant d'entendre
oui,
ça.
Oui, extrêmement rassurant, parce que extrêmement fréquent, ce n'est pas du tout de l'ordre de l'extraordinaire. C'est étudié dans les plus grandes universités américaines et à travers le monde. Il y a des professeurs, des chercheurs qui étudient pour les expériences de mort imminente depuis 45 ans. Il y a des études claires, précises, qui démontrent la validité de la continuité de la conscience après la mort.
On filera tout à l'heure en Nouvelle-Calédonie rejoindre Chloé, qui avait vécu cette expérience de mort imminente et qui va nous raconter ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu et qui corrobore aussi d'autres témoignages qu'on a pu entendre et qui nous sont assez familiers. Il en est un qui nous écoute assidûment, avec beaucoup d'attention, c'est Sébastien Boller. Il est rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, il est docteur en neurobiologie. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Flavie.
Merci de passer cette heure en notre compagnie. Sébastien Boller, vous avez entendu donc Christophe Auré qui nous parle d'études qui sont faites sur ces expériences de mort imminente. On en parlera aussi avec tous nos témoins, Alexandre dans un instant, qui va nous expliquer qu'il a échappé vraiment à la mort il y a un tout petit peu plus d'un an. Sébastien Boller, c'est quoi là ce que nous raconte en fait Christophe Auré? C'est l'âme ou c'est le cerveau qui à un moment donné nous diffuse des images si rassurantes? Comment ça se passe en fait?
Alors, les expériences qui sont faites sur les expériences de mort imminente donnent des résultats sur le vécu subjectif des personnes qui vivent ces expériences-là. Et ce sont des informations très précieuses, c'est-à-dire qui nous montrent effectivement de façon assez régulière qu'il y a une diminution de l'angoisse de la mort, on passe souvent par des états plutôt plaisants, plutôt agréables, voire proches d'une expérience spirituelle, mystique, qui change ensuite beaucoup de choses dans le vécu des personnes. Voilà. Donc, quand on pose la question, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est le cerveau, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de
le savoir,
dire que c'est l'âme. Non, il n'y a aucun besoin de faire intervenir la notion d'âme qui n'est pas une notion scientifique.
C'est ça, c'est la raison pour laquelle je vous provoque sur le sujet.
Voilà. Non, mais c'est-à-dire que, pourquoi pas, l'âme, évidemment, c'est une grande question. Mais quand on décide de prendre des outils scientifiques pour poser cette question-là, il serait une grande erreur de la part des scientifiques de vouloir détecter l'âme, parce que c'est pas du tout de leur ressort. Et ceux qui étudient ça scientifiquement étudient d'une part l'aspect psychologique des témoignages qui peuvent être recueillis et qui sont effectivement très très intéressants, et puis d'autre part on peut commencer à étudier ce qui change dans le fonctionnement du cerveau et la façon dont il traite par exemple la perception de l'espace, puisqu'on sait par exemple que dans ces expériences de mort imminente, parfois la personne a le sentiment de sortir de son corps, et qu'on sait analyser ce qui, dans le fonctionnement du cerveau, produit à la fois la conception qu'on a habituellement de l'espace et à la fois les perturbations de la perception de l'espace qui expliquent ces sorties du corps, et qu'on peut même reproduire par des stimulations en électrophysiologie, c'est-à-dire par l'implantation d'électrodes.
Alors, pardon, je vais vous poser une question complètement con, Sébastien. Mais mais parce qu'il y a une mort cérébrale, hein, évidemment. Est-ce que, alors, on a bien compris que le cerveau certaines zones du cerveau s'activent, transforment notre perception des choses. Enfin, je vais essayer de vulgariser. Mais est-ce que ça s'éteint comme si on éteignait toutes les pièces d'une maison?
Oui, l'image n'est pas mauvaise. Mais il faut voir qu'une maison a plusieurs étages et que lors d'une mort naturelle, par exemple, on sait qu'il y a les étages supérieurs qui s'éteignent en premier, par exemple le cortex cérébral qui est plus demandeur d'énergie, par exemple, dès que l'apport sanguin diminue, c'est d'abord le cortex qui va en souffrir, et puis des zones plus profondes, plus sous-corticales, qui vont s'éteindre en dernier. Et puis à la fin, le tronc cérébral qui résiste encore vaillamment pendant quelques minutes en plus. Donc c'est comme une extinction, mais progressive, des étages supérieurs vers les étages plus inférieurs.
Et qui, du coup, peut expliquer aussi des perceptions, peut expliquer des ralentissements de certaines choses, ou une façon d'appréhender. Enfin, je vous parle de quelque chose de totalement inconnu. Hein. Peut-être qu'Alexandre va nous en parler dans un instant. Mais ce qui peut expliquer, effectivement, ces modifications de perception.
Oui, puisque... Si la partie de votre cerveau qui vous sert à être rationnel, à analyser votre conscience de façon comme vous êtes habitué à faire, si cette première partie du cerveau est la première à s'éteindre, ensuite il va vous rester la capacité de ressentir des choses, mais pas forcément en les structurant de la même façon.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est toute la coloration qui va changer.
C'est bien foutu l'histoire. Hein. Non mais quand je vous écoute, bon, on va se retrouver dans un instant. Je sais, Christophe Auré, que vous voulez évidemment intervenir, parce que je sais que ce sujet vous passionne, comme nous d'ailleurs. On est ensemble jusqu'à 15h30. On va donner la parole à ceux qui ont expérimenté, je dirais, cette sensation, et qui pourtant sont là. Et puis surtout, aujourd'hui, on interroge notre goût de l'existence. Est-ce qu'en ayant frôlé justement la mort, est-ce qu'en ayant marché sur cette crête, on vit différemment? Ce sera le cas d'Alexandre dans un instant sur cette antenne. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Frôler la mort change-t-il notre regard sur l'existence? On en parle avec nos invités. On va surtout parler de vie, mais c'est très intéressant parce qu'on va écouter certains qui ont marché sur cette crête. Christophe Auré, notre invité, il est psychiatre et psychothérapeute. Sébastien Boller, il est docteur en neurobiologie. Alors, c'est génial de vous avoir tous les deux. On salue Céline Bonnet, qui est notre programmatrice, qui a décidé de vous inviter tous les deux avec à la fois le point de vue d'un docteur en neurobiologie qui va nous parler cerveau. Et vous, Christophe Auré, pardon, mais vous nous parlez quelque part aussi, et ce n'est pas le débat de cette émission, mais vous nous parlez de choses qui nous dépassent.
Qui nous dépassent,
et
oui.
Qui seraient, alors je vous ai un peu provoqué, Sébastien, n'en prenez pas ombrage, mais qui seraient de l'ordre de l'inconnu, de ce que j'appelle l'âme,
de la dimension spirituelle de notre être, disons-le clairement.
Donc on va faire un truc global aujourd'hui avec nos invités. Je vous propose tout de suite d'écouter Alexandre. Il a 44 ans, il habite en Loire-Atlantique. Bonjour Alexandre.
Bonjour Flavie, bonjour aux invités.
Soyez le bienvenu Alexandre, merci d'être avec nous. On va revenir un petit peu en arrière, alors sur un moment qui a dû changer évidemment le cours de votre existence, en tout cas vous allez nous le raconter. C'était le 20 décembre 2019, vous allez à votre travail et là vous êtes victime d'un accident de la route extrêmement violent.
Tout à fait, donc je me rendais à mon travail et pour une raison plus ou moins inconnue maintenant si, mais la personne en face s'est endormie. Et je suis venu me percuter de plein fouet. Donc j'ai rien pu faire, ça va tellement vite, j'ai rien pu faire pour l'éviter. Mmh. Et donc l'accident, oui, a été très grave, très important, puisque les pompiers ont passé quelques heures pour me désincarcérer du véhicule. Et donc du coup, j'ai été transporté en hélicoptère au CHU de Nantes.
Ouais.
Voilà, et avec un pronostic vital plus qu'engagé. Mmh. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que j'étais conscient tout le temps et conscient et mais pas conscient de la gravité des blessures. C'est ça qui est assez impressionnant d'ailleurs, parce que je m'en rendais pas compte que c'était mon état était très grave quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Et alors donc, héliportée, donc dans un hôpital, pronostic, alors pardonnez-moi parce que je ne sais pas trop comment aborder ce genre de sujet, mais pronostic vital, donc très engagé, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. Vous dites que vous étiez conscient, est-ce que effectivement jusqu'à votre arrivée à l'hôpital, vous vous souvenez de tout ?
Oui, complètement.
Ok.
Complètement. Et alors, le pronostic vital, il était engagé. Pourquoi ? Parce que je me souviens que les pompiers m'ont posé, pendant que j'étais dans le véhicule, m'ont posé des questions, savoir si j'avais ma carte de groupe sanguin, bien sûr, je l'avais dans mon portefeuille. Mais surtout, ils m'ont demandé si j'avais écrit un document pour les greffes d'organes. Faut écrire un document si on ne veut pas donner ses organes.
Oui, tout à fait. On a déjà effectivement parlé de ça. C'est-à-dire que c'est le pompier qui vous a demandé si vous vouliez donner vos organes. Grosso modo, c'était ça.
Moi, j'ai pris dans le sens où est-ce que je voulais éventuellement avoir une greffe, si toutefois. Donc, j'ai pris comme ça. Sauf que, en fin de compte, le but du jeu, c'est
qu'il vous disait.
Demande pour me pour me découper.
Pardon, excusez-moi.
Okay. Non, mais
ok, d'accord. Bon, ça, c'est toute la délicatesse dans l'instant. Mais enfin, bon, en tout cas, vous ne l'avez pas pris comme ça.
Quelques jours après, comme ça. Mais non, je ne l'ai pas.
Et alors, attendez, parce que là, on se parle aujourd'hui. Donc, à un moment donné, vous retrouvez à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précis ?
Alors, à l'hôpital, j'ai reçu une batterie d'examen, bien sûr. Donc là, après, ils m'ont mis dans le coma. Ils m'ont endormi complètement. J'ai eu une batterie d'examen où ils se sont aperçus que, en fin de compte, le pronostic n'était pas aussi grave que ça. En fin de compte, j'allais pas mourir.
Ouais.
Mais j'ai eu plusieurs opérations. J'avais un souci avec une carotide aussi qui était abîmée.
OK.
Et qui formait des caillots de sang.
Ouais.
Donc à tout moment ils pouvaient muter vers le cerveau ou vers le cœur et là c'était la fin. Donc ils m'ont gardé. Je suis resté plus d'un mois à l'hôpital sous observation pour éviter qu'à tout moment j'avais une épée d'Amoclès en fin de compte au-dessus de moi et à tout moment le caillot de sang pouvait muter quoi.
Est-ce que si vous avez souvenance de tout, est-ce que vous avez malgré tout le sentiment en frôlant la mort d'avoir eu vos perceptions modifiées?
Parce que, oui.
Alors, c'est-à-dire, dans quel sens ?
Alors, dans quel sens ? C'est que, bizarrement, j'étais plutôt, j'allais pas dire euphorique, mais je ne sentais pas de douleur, déjà. Et je plaisantais avec les pompiers, eux me regardaient, mais avec des yeux, même les gendarmes, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, comment il peut réagir comme ça, alors qu'il est dans un état tel que, voilà, quoi. Et je ne l'explique pas, je ne sais pas. C'est mon caractère aussi qui est comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Ouais,
est-ce
bizarre.
Que vous avez eu le sentiment que vos sens étaient décuplés d'une certaine façon aussi ? Parce que vous parlez de son aussi.
Oui, tout à fait. Les odeurs, les odeurs, la vue, tout ça, oui, je percevais énormément de ces choses-là, oui.
Donc vous aviez une acuité que vous n'avez pas en temps normal ?
Non, du tout.
Pour percevoir certaines choses ?
Exactement.
Alors, vous parlez d'une forme d'euphorie. On va y revenir avec Sébastien Boller et Christophe Auré. Est-ce que, par ailleurs aussi, dans ces moments-là, vous avez pensé à vos proches ? Est-ce que vous étiez en paix ou est-ce que vous étiez en panique ?
Pas en paix, mais pas en panique, je veux dire. Mais le réflexe que j'ai eu, alors j'étais coincé dans le véhicule, c'est d'appeler mes proches.
Ouais.
Peut-être pour les entendre encore une dernière fois, je sais pas. Pour les rassurer aussi, alors qu'ils ne savaient pas forcément ce que j'avais. Et je les ai pas appelés en disant que j'ai eu un accident. C'est ça qui est dingue.
Et parce que en fait, on a eu des témoignages aussi. Hein, on y reviendra, Christophe Auré, mais de personnes dans des avions et notamment lors des attentats du 11 septembre, qui laissaient des messages à leurs proches pour leur dire voilà, je voulais juste te dire que je t'aime quoi.
Exactement.
C'était pas je suis dans la merde, je suis dans un avion. Je sais
oui,
que
des
c'était
SMS, c'est,
on, fait, oui. comme si on allait effectivement. À cet essentiel.
C'est quasiment constant en fait. Hein, vraiment quand on a une décision à prendre, quelle question il reste dans mon esprit qui est l'essentiel, c'est ce que j'aime et pas moi sauver ma vie. C'est vraiment ce que j'aime, je vous aime. C'est vraiment tellement constant qu'il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans cette prégnance de l'amour aux derniers instants, alors qu'on pourrait penser à mille autres choses. Il y a la dimension d'amour et d'amour envers autrui qui s'impose.
On va se retrouver dans un instant. On va donner la parole à Sébastien Boller pour revenir sur justement ce que vous avez ressenti, vous, Alexandre. Et puis, on va parler de votre conception de la vie depuis, parce qu'il paraît que ça change.
Ah,
évidemment.
Oui,
bah voilà, les choses. Donc, il y a urgence à vivre. Voilà. Donc, ça, c'est le message aussi de cette émission. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Y a-t-il un avant et un après une expérience dite de mort imminente ? Dans un instant, vous entendrez Chloé, elle vit en Nouvelle-Calédonie et elle va nous expliquer justement tout ce que l'on a toujours entendu, mais elle l'a vécu. Donc c'est intéressant, cette idée du couloir blanc. Enfin bon, elle nous racontera tout ça. Pour l'instant, on est en ligne avec Alexandre qui a eu un accident de voiture très grave il y a un petit peu plus d'un an. Alexandre, on sent la vie, ça pète la joie hein, de votre côté, Alexandre, et ça c'est bon. Vous allez nous expliquer en quoi cette expérience justement vous a fait prendre conscience du goût de l'existence. Mais pour l'heure, Christophe Auré et Sébastien Boller sont notre invités. Sébastien Boller, vous êtes docteur en neurobiologie. Vous venez d'entendre le témoignage d'Alexandre qui nous parle de certains sens décuplés, d'une acuité au danger, d'une sensibilité au danger, je dirais presque atrophiée, enfin étouffée. Est-ce que ça vous parle ce que nous raconte Alexandre d'un point de vue du cerveau,
oui,
le fonctionnement du cerveau?
Du point de vue du fonctionnement de l'organisme et du cerveau en général, dans les états de choc comme ça, de grand danger, il y a quand même une mobilisation de l'adrénaline qui produit quand même des changements au niveau sensoriel. C'est quand même les réflexes de mobilisation des sens et du métabolisme de l'organisme face au très grand danger. Hein, c'est le mécanisme de survie quelque part qui se manifeste. Et puis alors sur l'attitude par rapport au danger, c'est intéressant parce qu'en fait, moi ça me fait penser à des études qui ont été publiées il y a plus d'un an sur la perception qu'on a de la mort. On a tous peur de la mort. Bon, mais il y a des études qui sont faites sur des gens qui savent qu'ils vont mourir, qui sont vraiment sur les dernières encablures de l'existence. Et ce qui est frappant, c'est qu'on se rend compte que plus on se rapproche de la mort, moins elle fait peur.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est quand même un enseignement qui devrait être approfondi. Ça rejoint aussi bien sûr ce que vivent les gens qui font des expériences de mort imminente, mais même en dehors de ça, plus ça devient tangible, moins ça fait peur. Dans le cerveau humain, on sait même qu'il a des structures qui font naître de l'anxiété, spécialement face à ce qui est impalpable, à ce qui est inconnu. Donc plus ça devient tangible, quelque part, plus les choses se dédramatisent, plus on est dans le concret. Et aussi vers des réflexes comme ceux dont on vient de parler, d'affiliation, c'est-à-dire de resserrement des liens affectifs qui, depuis toujours, sont aussi le garant de la survie. C'est pas pour rien que ça s'exprime à ce moment-là.
Ouais.
Mais voilà, il y a quelque chose qui devient plus dans la réaction immédiate et quelque part, ça désamorce aussi certaines angoisses qui sont liées à l'inconnu.
C'est ça. Christophe Auré, le témoignage d'Alexandre vous a touché.
Alors de fait, là, pour reprendre ce qui vient d'être dit, il y a effectivement un apaisement pour les personnes en fin de vie. J'ai beaucoup travaillé en soins palliatifs pendant des années, donc il y a clairement un apaisement, pas tout le temps, mais de la personne qui se chemine vers sa fin de vie. Mais là-dedans, il y a aussi un autre type d'expérience qui est important d'amener, que tout soignant en soins palliatifs connaît. C'est ce qu'on appelle, en anglais, c'est les Near Death Awareness. C'est les état de conscience accru au moment de la mort, qui sont des personnes qui ne sont pas du tout comme dans les NDE, dans les expériences de mort imminente, en danger de mort avec des troubles, peut-être des atteintes cérébrales, mais qui sont au contraire très calmes, très apaisés, sans hallucinations, sans médication qui vient altérer leur jugement et qui font part à 40%, 30 à 40% des cas, c'est énorme, de perception et notamment de perception de défunts. Comme si des proches venaient les chercher. Et j'étais moi-même avec d'autres médecins.
Je trouve ça génial, hein,
témoin d'une situation où une dame avec qui je parlais me racontait très clairement ce qu'elle vivait. Et à la fin, elle me dit, est-ce que j'ai la tête claire? Elle dit oui, j'ai la tête claire. Enfin, on avait eu un entretien classique. J'étais très claire, est-ce qu'il n'y avait pas d'hallucination? Non, je suis très très claire. Ok, c'est vous le psychiatre qui me dites que je suis claire. Donc, je vais vous dire, au bout de mon lit, je perçois mon mari décédé. Et moi, je retourne, je dis, je ne le vois pas, mais vous le voyez, dites-moi votre expérience. Et est-ce que c'est inquiétant? Non, pas du tout, c'est serein. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme s'il m'attendait. Et elle était complètement lucide.
Moi, c'est trop
claire.
Sympa, hein. Si franchement, ils nous attendent.
Avec quelque chose de très apaisé. Donc, c'est pas du tout magique, hein. Et deux jours après, cette dame était décédée dans des conditions très apaisées. Et c'est une histoire parmi des milliers qu'on entend en soins palliatifs.
Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. Alexandre, votre goût de l'existence, ça pourrait vous faire flipper ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous en profitez davantage?
Oui, alors. pour l'instant, non, j'allais dire oui et non.
Bon, en ce moment, on est dans une période un peu compliquée. Pour qui aussi, pas de bol. Hein.
Exactement. Alors, il y a ça, et je suis toujours, malheureusement, encore en arrêt. Parce que j'ai des difficultés, à marcher, à me déplacer. Donc je peux pas conduire. Je suis un peu confiné depuis décembre 2019.
Encore en convalescence.
Vous voyez ce que je veux dire.
Mais dans votre perception de l'existence.
Oui, complètement. Alors ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure on parlait des gens qui appelaient leurs proches au moment d'un crash aérien pour leur dire qu'ils les aimaient. Je le fais maintenant très souvent. Je sais pas que je le ne faisais pas avant, mais avant, j'avais une vie qui était très active. Je prenais pas le temps de dire je t'aime, d'appeler mes proches, d'appeler mes amis. Maintenant, il se passe pas, mais une journée ou une semaine de toute façon, sans que je les appelle plusieurs fois, sans que je leur dise que je les aime, qu'ils comptent pour moi. Et c'est vrai que cet accident-là m'a permis de faire un point sur moi-même. Et il y a une citation qui est vraiment très que j'aime beaucoup, c'est qu'on a deux vies et la deuxième commence quand on s'en rend compte qu'on en a qu'une.
Ouais, c'est clair.
Et c'est tout à fait ça. C'est exactement ça.
Eh bien, je voudrais vous remercier parce que c'était extrêmement beau ce que vous nous avez dit, malgré l'obscurité évidemment de ce qui vous est arrivé
il y a maintenant un peu plus d'un an.
Mais je l'entends et je vous souhaite le meilleur, Alexandre. Je me permets de vous embrasser et puis merci d'avoir passé ce moment avec nous. Restez à notre écoute. On filera en Nouvelle-Calédonie dans un instant. Et Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio. On va parler des infos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, Alexandre. À bientôt.
Merci, bonne journée.
Flavie Flamand sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est 15h. Les informations, c'est avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
À la une d'abord, cet objectif ambitieux annoncé.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
On est ensemble jusqu'à 15h30. Vous avez raison de souligner, Christophe Auré, que tout le monde envoie du madame aujourd'hui. Hein. C'est madame Flavie.
Mais vous m'aviez jamais fait merci,
le
mon petit nom.
C'est
la première.
C'est vrai, Olivier Bois. Merci beaucoup. Alors, madame Flavie, à votre service, en compagnie de messieurs Christophe Fauré et monsieur Sébastien Boller, donc, qui sont mes invités aujourd'hui, vos invités jusqu'à 15h30 pour parler de la vie, mais à travers les expériences de mort imminente. C'est très intéressant. On découvre tout un univers que certains méconnaissent, mais que d'autres, quelque part, ont approché, peut-être de trop près. Alors, on va filer en Nouvelle-Calédonie, retrouver Chloé, parce qu'on va faire montre d'un peu d'indulgence et de bienveillance vis-à-vis de Chloé, parce qu'il est très très tard en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Non, je disais d'indulgence, mais en fait c'est surtout de bienveillance parce que quelle heure est-il chez vous là? Il est 12h, 10h de plus?
1h04 du matin.
Voilà, c'est bien ça. Soyez la bienvenue Chloé, merci. Vous êtes où? Vous êtes à Nouméa?
Oui, j'habite à Nouméa, oui, c'est ça.
Quelle magnifique île que la Nouvelle-Calédonie. Alors, Chloé, une île absolument magnifique, mais vous avez vécu une nuit de Noël 2014 absolument épouvantable, avec une expérience, là, pour le coup, de mort imminente que vous allez nous raconter. C'était dans un contexte très particulier, une tentative de cambriolage et une agression très violente.
Oui, c'est ça. En fait, on peut même qualifier ça de tentative de meurtre, puisque c'est comme ça que ça a été nommé. Mais je vais bien.
Oui, j'entends.
Je vais bien. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé.
Ouais.
Donc, c'était cette fameuse nuit de Noël 2014. Et je suis rentrée chez moi dans ma colocation et je me suis couchée comme de manière complètement normale. Avec quand même une intuition, et ça je tiens à le préciser, de s'il se passe quelque chose dans cette maison, je suis la première en ligne de mire. C'est comme si mon intuition m'avait prévenu en rentrant dans cette maison que peut-être il pouvait se passer quelque chose. Donc j'avais regardé toutes les fenêtres et rien n'est signalé. Donc je suis allée me coucher. J'ai eu ma famille sur Skype pour Noël, puisque on avait 10 heures de décalage horaire. Et quelques heures après, je me suis réveillée. J'ai ouvert les yeux parce que je ne respirais plus. J'avais un homme sur moi, califourchon, en train de m'étrangler et de me donner des coups. Donc, sur le moment, j'ai très vite compris que c'était pas un de mes rêves, qu'il y avait vraiment quelqu'un dans ma chambre, un inconnu qui était en train de m'étrangler et de vouloir faire en sorte que je me taise et que ça s'arrête, que ma vie s'arrête en gros. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis longtemps battue. J'ai vraiment... c'était important pour moi de ne pas me laisser faire. Je pense que c'était le cerveau, peut-être de survie, l'instinct de survie là, qui réagissait. Et puis, à un moment donné, dans la fatigue, on est tombé du lit. Il m'a poussé du lit. Et là, je me suis retrouvée coincée entre le bas de mon lit et mon bureau. Et en fait, dans cet espace-là, je n'avais plus du tout possibilité de bouger mon corps. J'étais complètement coincée et lui est revenu sur moi avec tout son poids. Et à ce moment donné précis, je savais que c'était fini pour moi. Ça faisait déjà de longues minutes qu'on était dans ce combat. Et j'ai eu le souvenir que j'avais une prise à rallonge à côté de mon lit. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais l'attraper, peut-être que ça va m'aider à faire je ne sais pas quoi. Et au moment où j'ai tendu mon bras, en fait, je suis complètement sortie de mon corps. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, je me suis retrouvée à observer la scène en étant complètement consciente de tout ce qui se passait. Je nous voyais très bien, je voyais tout ce qui se passait dans la chambre. Et une sensation mais d'une telle douceur, c'était tellement agréable, j'avais plus aucune douleur. C'était comme si j'étais enveloppée d'amour. C'était j'étais bien à cet endroit-là, j'étais vraiment bien.
Et vous voyez,
je regardais la scène.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est ça, je me voyais complètement, je voyais mon corps physique et le sien sur moi, figé. Et moi, j'étais consciente, je savais que c'était moi, et je me demandais bien, mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'étais dissociée de mon corps, et à cet endroit-là, consciente de me dire, alors attends, là, tes parents doivent être en train de manger leur bûche de Noël, et toi, t'es en train de vivre ça. Est-ce que tu as envie de voir un article dans le journal demain qui indique que tu es morte? Et en même temps, beaucoup d'humour. Tu tiens longtemps sans respirer, tu devrais faire de la plongée ou de la tenue, enfin bref, des choses complètement...
Ubesques, enfin vu la situation.
Ouais. Mais j'étais très consciente et à un moment donné, en fait, j'ai eu une décision. Je voyais une lumière au loin, alors moi je ne suis pas rentrée dans le tunnel comme on peut entendre parfois, mais par contre il y avait vraiment cette boule lumineuse très blanche et puis vraiment moi, ce dont je me souviens, c'est cette sensation d'enveloppement en fait, de me dire t'es bien là, reste là, tu es bien. Et un moment, voilà, c'est comme si on avait mis la décision de ok, soit tu restes là où tu es bien, tu n'as plus mal, c'est plein d'amour, continue, avance vers là où on m'a montré, mais ça voudra dire que tu ne seras plus là sur me montrer en bas en fait, donc sur terre en gros. Ou bien tu choisis de revenir et alors là, tu vas avoir extrêmement mal. Mais voilà, si tu prends cette décision, c'est que tu as des choses à faire. Et ça va très très vite. Et j'ai pris la deuxième option hein, puisque je suis là. Mais au moment où j'ai décidé ça, quand j'ai réintégré mon corps, j'étais... Alors, ça va paraître un peu bizarre, mais je sais que je n'étais pas toute seule. Dans le sens où au moment où vraiment j'étais à bout de force, avant de sortir de mon corps, j'ai demandé de l'aide. Je ne sais pas trop à qui, quoi, comment, mais je me souviens avoir demandé de m'aider. Et quand j'ai réintégré mon corps, j'étais guidée par une force, une énergie qui m'accompagnait à le voir, à le toucher. Et ok, essaye de distinguer, est-ce qu'il a des signes, est-ce qu'il a de la barbe, est-ce qu'il est tatoué, est-ce qu'il y a quelque chose dont je pourrais me souvenir. Et à ce moment-là, j'ai pu lui enfoncer mes doigts dans les yeux. Et à ce moment-là, il a enfin pu me lâcher et s'enfuir. Oui, voilà.
Je manque de souffle là. Chloé, on va se retrouver dans un instant sur RTL. Sébastien Bollaert, Christophe Fauré vous écoute. Il en est un autre qui vous écoute. C'est Fabrice qui a vécu la même chose que vous suite à un arrêt cardiaque. Okay. Il nous a appelé. Bref, je suis un peu chamboulée. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Bon, Chloé, là, elle nous a emmenés dans un monde, alors, en même temps, qui est à la fois extraordinaire, mais qui, visiblement, est un monde qu'ont exploré pas mal de nos auditeurs. Les réactions sont nombreuses. Et donc, je vais vous demander, Christophe Auré, vous qui êtes psychiatre et psychothérapeute, de nous raconter déjà votre lecture du voyage de Chloé, qui nous explique qu'elle est sortie de son corps. Donc là, c'est clairement l'expérience.
C'est l'expérience qu'on appelle EMI, de l'expérience de mort imminente. Et je voudrais juste vous mentionner que c'est très connu des chercheurs. Il y a plusieurs classifications internationales. Il y en a une de Dr Moody qui était un des premiers à parler il y a 45 ans de ces phénomènes. Il y a 12 critères et on retrouve le témoignage de Chloé. 1. Sensation de paix et de calme. 2. La conscience d'être mort. 3. La décorporation. 4. La vision d'un tunnel dans lequel la personne s'engage. 5. La perception de proches décédés. 6. La perception d'une très vive lumière émanant un amour inconditionnel, exactement ce que nous décrit Chloé. 7. Une vision panoramique de l'existence, comme si la personne voyait en un flash l'ensemble de son existence. 8. La perception d'une frontière à ne pas dépasser ou non, exactement comme le choix que
j'ai
de Chloé. Le retour dans le corps, Chloé nous l'a décrit. Et après, surtout, c'est essentiel, et on va peut-être en parler, les transformations durables sur la vision de la vie et de la mort. Et c'est l'ensemble de ces 12 critères qui font qu'on parle vraiment d'une EMI.
Sébastien Boller, vous avez écouté le témoignage de Chloé, vous êtes docteur en neurobiologie. Quelle lecture en avez-vous fait?
Déjà, je trouve que ce que vient de dire Christophe Auré vraiment résume très très bien tout ce qu'on sait sur les expériences de EMI. C'est vrai que c'est très très précis et c'est stupéfiant de le voir à l'œuvre chez quelqu'un qui témoigne de ça. Moi, ce qui m'a frappé en entendant Chloé, c'est d'une part, oui, l'expérience de sortie du corps qui a tellement été décrite même dans la littérature. On voit ça dans Hemingway. Le voyage astral, comme ça, donc forcément, ça a une immense résonance mystique, spirituelle. Et ce qui est fascinant, c'est de voir la lecture qu'on en fait aujourd'hui en neurosciences. Il y a des laboratoires, par exemple, où on voit comment le cerveau construit l'image de notre propre corps. Alors, vous, moi, quand on est habitué à vivre tous les jours, on voit les choses en première personne, donc on se voit pas de l'extérieur. Mais ça, c'est une construction du cerveau qu'on appelle égocentrique, où on prend l'habitude de voir les choses comme ça, mais dans certaines circonstances, les mêmes zones du cerveau peuvent changer de fonctionnement et donner une image du corps de l'extérieur. Et on arrive à reproduire artificiellement ces sorties du corps par des stimulations du cerveau avec de l'électricité, et ça devient une science qui est absolument fascinante. Ça remet en cause notre vision de nous-mêmes. Et la deuxième chose que moi je trouve fondamentale dans le témoignage de Chloé, c'est le moment où elle dit qu'elle a un choix. Soit elle se laisse partir, soit elle revient. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui va déterminer son choix? C'est qu'elle dit à un moment, il y a
quelque chose à faire. Exactement,
ça m'a frappé. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi, fait écho à la théorie du sens de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un psychiatre autrichien qui a réchappé des camps de la mort, qui a réchappé de 3 camps de la mort, qui était à 2 doigts de mourir aussi, et qui, à un moment, s'est dit, mais j'ai une seule raison de ne pas mourir. C'est parce que je sens que la vie m'appelle encore pour quelque chose. Et ça, je crois que on touche au cœur de l'humain. C'est-à-dire que ce qui nous donne finalement la décision d'aller vers une vie où il y aura de la souffrance plutôt que de se laisser partir vers autre chose qui peut être réconfortant, c'est quand on se dit qu'on a une raison de vivre. Et là, on touche à l'existentiel. C'est fabuleux.
Christophe Auré.
Il y a des éléments tout à fait par rapport à ces expériences qui peuvent être stimulées en laboratoire, mais ça ne rend pas compte de témoignages de personnes qui, lors de leur expérience de mort imminente, ont eu des perceptions qui étaient au-delà de la pièce où ils étaient, par exemple, réanimés, si c'était une réanimation
au cours genre on peut se balader, quoi.
Voilà. Et qu'il y a des personnes qui ont décrit des situations qui ont été validées après par témoins qui ont été perçus parfois proches, soit dans l'hôpital, si c'est dans un hôpital, ou même plus à distance, et qui étaient corroborées par rapport au récit. Donc c'est un peu compliqué de dire c'est simplement le cerveau qui produit cette expérience-là, parce que ça renvoie la conscience à simplement un produit du cerveau, alors qu'il y a l'hypothèse également d'un cerveau qui serait simplement émetteur-récepteur d'une autre dimension de conscience qui, elle, ne serait pas uniquement localisée au cerveau et qui rendrait compte d'ailleurs des expériences de mort imminente parce que cette conscience perdurerait au-delà de la, du fonctionnement d'un, d'un cerveau qui, a, dans certaines circonstances, ne fonctionne plus.
Alors, Chloé nous a quittés, on la remercie, il est tard hein, en Nouvelle-Calédonie, il est temps d'aller roublier. Mais voilà, on va juste la rappeler pour la remercier et lui souhaiter une bonne nuit. Fabrice nous écoutait, il nous appelle, il a 50 ans. Bonjour Fabrice.
Bonjour Flavie, bonjour les invités.
Soyez le bienvenu, vous avez été un acteur extérieur de ce qui vous est arrivé lorsque vous avez eu un arrêt cardiaque lors d'une opération. C'était il y a 25 ans, vous vous souvenez encore de tout précisément?
Exactement. Et le récit de Chloé en fait remonter des émotions. Au moment où je parle, j'ai vraiment le cœur qui a palpité pendant son récit. Ouais. Parce que les choses étaient beaucoup plus brefs, beaucoup plus courts, moins violents. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plutôt très sportif, équitation sportive, natation sportive. Et donc, je ne posais aucun problème au niveau de l'anesthésie. Mais par contre, j'avais quand même à la base une petite phobie des hôpitaux. Donc, arrive le moment où vous arrivez au bloc opératoire, tout le monde est masqué. C'est un phénomène un peu stressant pour les gens comme moi qui sont un peu phobiques des hôpitaux. Et au moment de l'anesthésie, je pars. Mais je pars arrêt cardiaque. C'est ce qu'on m'a expliqué le lendemain. Là, ils ne comprennent rien. J'aurais fait des frayeurs, comme ils m'expliquaient le lendemain. Je pars, mais je flotte au-dessus de mon corps. Je vois ce qui se passe. Je suis bien, il y a un bien-être. Je n'ai qu'une douleur. Je les vois autour de moi. Je peux les nombrer. À savoir, ils étaient au nombre de 6. Je m'en souviens très bien. Et tout se passe bien. Pour moi, tout va bien. Mais je ne perçois pas l'agitement qu'il y a autour de mon corps terrestre, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est que vous êtes en jet lag complet, c'est-à-dire entre vos sensations et ce qui se passe en réalité, on est dans la panique. Je suis navrée, on va se retrouver dans un instant, Fabrice. On va marquer une courte pause, parce que je voudrais vraiment qu'on profite de vos témoignages. Ce sera juste après, à tout de suite.
Ok, ceci, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, vous êtes avec nous, Fabrice, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais c'était passionnant, mais il fallait marquer une courte pause sur l'antenne d'RTL. Vous avez fait un arrêt cardiaque lors d'une opération, c'était il y a 25 ans, vous vous souvenez de tout, et le témoignage de Chloé, qui nous appelait depuis la Nouvelle-Calédonie, a réveillé chez vous des émotions et je le comprends bien, étaient à fleur de souvenirs hein, depuis tout ce temps. Vous nous avez expliqué être sorti de votre corps au moment de cet arrêt cardiaque. Et d'avoir été à la fois, alors c'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre l'état dans lequel vous étiez et la panique que vous voyez au moment où votre corps était l'objet de toutes les inquiétudes des médecins.
Exactement. Bon. Et je ressentais vraiment une sensation de bien-être, d'apaisement, j'avais aucune douleur, pour moi tout allait bien.
Ça, alors, est-ce que vous êtes capable, pardon, c'est complètement idiot, mais de quantifier combien de temps vous êtes resté? Parce que Chloé, on sent que ça a mis du temps quand elle nous le raconte et tout. Vous
avez dit que c'était plus rapide. Justement, oui, par rapport à son récit, moi je n'ai pas vu de tunnel de lumière, je n'ai pas vu de couloir, c'était assez bref. Je me suis réveillé en sursautant, j'ai vraiment fait sauter, ça je m'en souviens très bien, encore dans mes rêves, lorsque ça m'arrive d'y penser.
Mais vous étiez sous anesthésie.
J'étais en âge, oui, tout à fait. Et j'étais vraiment en âge, comme si que je sortais de l'eau en fait. Et une petite voix m'a dit « Fabrice, tout va bien, tu as juste fait un faux départ ». Une voix très douce, très calme. J'avais toujours les yeux fermés. «
Fabrice, tout va bien », c'était moi, j'étais là il y a 25 ans déjà. Vous écoutez RTL. Non, je rigole, pardon. Pardon.
Et donc, et à ce moment-là, donc, je me suis rendormi en fait. Et c'est le lendemain que j'ai eu les explications du chirurgien, l'anesthésiste.
Et en fait, vous vous êtes endormi. L'opération s'est bien passée. Donc vous étiez revenu en fait à la vie, voilà. Ouais. Et le lendemain, vos souvenirs étaient malgré l'opération, malgré l'anesthésie, vos souvenirs étaient vivaces.
Exactement. J'ai pu décrire la scène au chirurgien. Et... Ouais. Il m'a dit oui, ça s'est passé comme ça. Alors je crois que le terme employé à l'époque, c'était vous avez fait un arrêt cardiaque post-opératoire. Je crois que c'était ça le terme, il me semble.
Post-opératoire, ça voudrait dire après opération. Donc ouais, c'est d'accord. Ok. Non, mais c'est dingue parce que alors là, pour le coup, on pourrait se dire Sébastien Boller que je sais pas, dans un état d'anesthésie, on a zéro souvenir, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on s'endort, on se réveille, et des choses ont changé entre temps, mais on n'a pas conscience de ça. Or là, il lui reste quelque chose.
Ah oui, alors là, c'est...
difficile de vous répondre parce que.
Ouais. Mais non, mais moi je. Oui.
Là, ça dépend des paramètres de l'anesthésie. C'est vrai que normalement la sédation est profonde.
Oui, il y a un truc qui nous échappe.
Je sais pas.
Il y a peut-être un truc qui nous échappe, Sébastien, c'est possible aussi.
Il y a énormément de choses qui nous échappent, mais dans tous les sens.
Heureusement. Donc, heureusement.
Ne serait-ce que. Vous voyez, c'est pas parce que quelque chose nous échappe que c'est de l'ordre du surnaturel.
Non.
Dans le fonctionnement d'une cellule, ou même simplement de l'ADN chromosomique, il y a encore des milliards de choses qui nous échappent.
Oui,
le champ de l'inconnu est très très vaste, oui. Là...
Non, mais c'est fascinant. Voilà. Ouais, on peut se le dire. Voilà, on n'a pas réponse à tout, ni les uns ni les autres. De toute façon, on parle de quelque chose qui nous est inconnu, mais qui a éprouvé Fabrice. Alors, Christophe Fauré.
Là, il y a une expérience très emblématique. Pamela, mais je ne me souviens plus de son nom, une femme qui avait eu une opération chirurgicale où, pour laquelle son cerveau avait dû être réfrigéré au point de n'avoir aucune activité. Et c'était enregistré au cours de l'intervention chirurgicale par un relevé de l'électroencéphalogramme. Et elle a fait une NDE. Et elle est sortie.
Donc, near-death expérience pour ceux
détail, alors que son cerveau, de façon objective, il n'y avait aucun tracé d'activité électrique, qui ne fonctionnait plus. Elle a pu décrire les lieux, décrire les instruments, qu'on avait utilisés pour la chirurgie. Et elle a eu, ce qui est le plus important, c'est qu'elle a eu, après cette expérience-là, des transformations de vie. Ce serait essentiel d'en parler.
Parce qu'on a parlé de ça. Il nous reste peu de temps. Et puis, les témoignages affluent. Donc, on refera une émission sur le sujet qui visiblement vous passionne. Est-ce que, Fabrice, depuis ça, vous avez une autre appréciation de l'existence ? Parce que ça fait partie des symptômes dont vous nous parliez.
C'est évident, vous voyez la vie autrement, la vie est merveilleuse, elle est belle, elle mérite d'être vécue, quoi qu'il arrive. Et après, je pense que vous n'avez plus l'appréhension vraiment du décès, de la mort.
Ça change tout.
C'est ça. En fait, vous n'avez plus cette peur ou cette appréhension.
Mais c'est hyper important ce que vous nous dites. Ça change tout parce que certains sont extrêmement flippés justement par leur finitude. Et là, ce que vous nous expliquez, c'est d'être passé par là, vous fait aborder les choses d'une façon différente.
Et pourtant, mon passage ailleurs, je peux appeler ça ailleurs, était très bref.
Oui, mais ça vous a apaisé.
Tout à fait.
Ouais, Christophe Fauré,
là, extrêmement présente dans les changements qui surviennent. Il y a des changements majeurs liés à la conception de la vie et de la mort, avec une diminution, une disparition de la peur de la mort, avec la certitude que la conscience survit après le corps physique. Il y a aussi des transformations au niveau de la perception de soi. On est moins vulnérable au jugement d'autrui. Et il y a une place prépondérante.
Ah oui, ça, j'imagine qu'à un moment donné,
il y a une place prépondérante de l'amour, de l'amour dans son existence. Cette sentie tellement aimée, avec la perception de qu'il y a quelque chose de l'amour qui régit l'univers. Et une autre composante essentielle, c'est que les personnes sont une soif de connaissance, de connaissance de l'être, de l'humain. Et les gens reviennent, il y a deux choses.
Quoi, ça nous rend meilleur, quoi ?
Non, une soif de connaissance. Il y a deux choses, une dimension d'amour qui imprègne le reste de l'existence et une dimension de connaître, de connaissance, de sagesse.
Niquette nous écrit, j'ai vécu cette expérience de mort imminente lorsque j'ai accouché de ma première fille après avoir fait une hémorragie. Cette expérience a changé à tout jamais ma façon d'aborder la mort.
Bien sûr,
voilà. Et évidemment, du coup, d'aborder l'existence. Merci beaucoup pour votre témoignage, Fabrice, de nous avoir appelé spontanément. Prenez bien soin de vous. Sébastien Boller, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle, Cerveau et Psycho, c'est un magazine passionnant. Et Où est le sens ? C'est un livre passionnant chez Robert Laffont, votre dernier ouvrage, après le grand succès du premier. Merci Sébastien Boller. À la prochaine.
Salut.
Christophe Auré, un ouvrage ?
Un ouvrage.
Il y en a tellement.
Un qui va sortir de Evelyne Elsers, qui va sortir dans 2021. J'ai fait la préface pour l'édition française, qui parle des signes que les personnes en deuil perçoivent après le décès d'un proche. Ça s'appelle des VSCD, vécus subjectifs de contact avec les défunts.
Bon,
et c'est là aussi extrêmement étudié.
Merci beaucoup Christophe Auré d'avoir été notre invité. Je voudrais remercier Bastien Robin, qui fait partie de notre équipe, qui bosse définitivement très bien. Profites-en Bastien, ça n'arrivera pas tous les jours. Je te kiffe. Merci à tous, c'était passionnant, c'était éclairant aujourd'hui. Bonne nouvelle, on remet ça demain dès 14h30 en direct sur RTL. On va parler d'amour qui nous mène par le bout du nez. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, à demain.
Flavie Flamand sur RTL.